Je vous salue, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons remercier notre Seigneur pour ce temps de louange et nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a accompli jour après jour et surtout pour le salut que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques jours, donc la dernière fois où j'ai pu partager la parole avec vous, nous avons vu la guérison du serviteur d'un centenier. Et le texte était dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Et on avait lu aussi Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Alors je vous propose de reprendre ces passages. On va lire le texte de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13 pour gagner un peu de temps. Et nous avons parlé de l'importance qu'il y a à croire en l'autorité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait ce centenier, dont le serviteur était malade, il était même proche de la mort. Et le centenier avait entendu parler de Jésus et il a envoyé déjà les anciens des Juifs pour demander à Jésus de venir guérir son serviteur. Et après, il envoie des amis, nous dit Luc, pour dire à Jésus que ce n'était pas la peine qu'il vienne chez lui parce qu'il ne se sent pas digne que Jésus entre sous son toit. Et nous avons souligné, en lisant ces deux passages, les petites différences que Matthieu et Luc apportent. Et comme c'est le cas pour les évangiles synoptiques, il y a un même point commun qui concerne le ministère de Jésus, mais chacun va donner des détails que l'autre va estimer pas nécessaires, mais parce que chacun a un objectif différent. Par exemple, Matthieu, lorsqu'il écrit son évangile, il s'adresse aux Juifs. Et donc, il cite beaucoup les textes de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus, celui qui était là, c'est le Messie qui était attendu. Donc, il fait beaucoup référence aux textes de l'Ancien Testament parce que son évangile a pour objectif de s'adresser donc aux Juifs. Et puis, Marc donne moins de détails, il est un peu plus direct. Et Luc aussi, qui s'adresse plus aux païens, qui fait que, en lisant ces évangiles et en les comparant, on a des informations que donnent les uns et les autres qui éclairent davantage la situation et nous apprend plus sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est John MacArthur qui dit dans son introduction aux évangiles que chaque évangéliste a adopté une perspective unique visant un auditoire différent, mais il dit que chaque évangile contient des éléments distinctifs et rassemblés, ils offrent à eux quatre un témoignage complet sur Jésus-Christ. Donc l'évangile de Jean n'est pas compté dans les évangiles synoptiques, mais les évangiles de Jean a pour but que ceux qui lisent croient que Jésus est le Fils de Dieu. Il met l'accent sur la divinité de Jésus. Tandis que Matthieu parle de Jésus comme étant le Messie, le roi, Marc parle de Jésus, le serviteur souffrant, et Luc qui nous parle de Jésus, le Fils de l'homme, qui est venu sauver ceux qui sont perdus. Donc nous avons lu ce passage de Matthieu, chapitre 8, et j'aimerais que l'on le lise encore, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, nous avons mis l'accent parce que le texte parle de la foi de ce centenier qui croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur. Et donc, nous avons parlé de la guérison physique, mais justement, Matthieu met l'accent aussi sur un autre aspect qu'il souligne la nécessité, et Jésus parle de la guérison spirituelle dont il est aussi nécessaire. Et donc notre frère nous a parlé de cela. Il y a la guérison physique, lorsque le Seigneur a délivré son âme du séjour de la mort, et puis il a fait le lien avec la nécessité de cette guérison spirituelle que le Seigneur nous apporte lorsque nous mettons notre foi en Jésus. Et là, Matthieu, s'adressant aux Juifs, va souligner les paroles du Seigneur Jésus-Christ pour leur dire aussi que si vous ne croyez pas en moi, comme ce centenier, ce païen qui a mis sa foi en moi, si vous ne croyez pas en moi, vous n'allez pas vous asseoir autour de la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire que vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous ne croyez pas en moi. Et vous qui avez les promesses, vous qui connaissez la parole, si vous ne croyez pas en moi comme ce centenier, alors vous les fils du royaume, vous serez jetés dehors dans les temps de feu et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et donc Matthieu souligne cette vérité pour dire que si on n'a pas foi en Jésus, si on a foi en Jésus, on a la vie éternelle, on entre dans le royaume de Dieu, et si on n'a pas foi en Jésus, ce qui nous attend, c'est les grincements des dents, c'est le ténèbre qui est là, et nous serons jetés, ceux qui ne croient pas seront jetés dans les ténèbres. Alors, lisons ensemble ce texte, Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. » Alors dans ce texte, nous voyons donc l'importance qu'il y a à croire en l'autorité et en la puissance de la parole de Jésus. Ce centenier qui avait, de par sa fonction, une certaine autorité, croyait que Jésus, lui aussi, était revêtu d'une autorité plus grande que la sienne. Et c'est pour cela qu'il s'est senti indigne de se présenter en personne devant Jésus. Il croit qu'il suffit que Jésus dise un mot pour que son serviteur soit guéri. Alors, lorsque Jésus il voit la foi de cet homme, il dit... Il dit à cet homme-là, que ta foi, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Et donc, ce fait nous encourage à avoir foi en Jésus-Christ, en la puissance de sa parole, comme je l'ai dit, pour intercéder pour ceux qui ont besoin de lui, ceux qui ont besoin d'être guéris de toutes sortes de maladies physique, mais aussi et surtout de ceux qui ont besoin de Jésus pour leur guérison spirituelle. La foi en Jésus de ce centenier pousse le Seigneur à adresser une parole particulière aux personnes d'origine juive, donc les Israélites qui le suivaient. En chapitre 7, verset 9 de Luc, il dit que lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et le texte que nous avons lu dans Matthieu 8 dit la même chose. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, le Seigneur Jésus, voyant la foi de ce centenier qui était un Romain, un païen, le texte nous dit qu'il était étonné, il était admiratif par rapport à la foi de ce païen. Et il exprime ouvertement sa déception. Il exprime ouvertement sa stupéfaction face à l'incrédulité de son peuple, cette foule qui le suivait. Donc là, il saisit l'opportunité pour enseigner à cette foule les dangers de l'incrédulité ou la nécessité qu'il y a à mettre eux aussi leur foi en lui, leur foi donc en Jésus-Christ. Notre Seigneur souligne l'incrédulité de son peuple. Au verset 10, il dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il exprime donc sa déception. Il aurait aimé trouver au sein de son peuple des hommes et des femmes qui aient foi en lui comme ce païen, ce centenier romain. Et cette foule qui suivait Jésus avait peut-être entendu parler de Jésus. Ce centenier, il a dit qu'il avait entendu parler de Jésus. Et il a mis sa foi en Jésus-Christ. Et cette foule-là qui suivait Jésus avait aussi entendu parler de Jésus parce qu'il était là, il suivait Jésus-Christ. Cette foule avait vu ou entendu parler de toutes ces bonnes actions que Jésus-Christ avait pu faire. Certains ont peut-être été au bénéfice de toutes les grâces de Dieu. Certains ont dû être guéris. Certains ont vu un proche de leur famille guéri par telle ou telle chose et que le Seigneur a intervenu. Certains étaient possédés par des esprits impurs et ils ont vu la délivrance que Jésus-Christ a apportée. Et donc, ils suivaient Jésus-Christ. Mais malgré tout cela, ils ne croyaient toujours pas, en tout cas la grande majorité, ne croyaient toujours pas que Jésus était le Messie. Ils ne voulaient pas croire en l'autorité de sa parole. Et à un moment, il est dit cela dans Luc chapitre 20, que Jésus, il enseignait dans le temple et les responsables religieux se sont approchés de lui ses responsables disent à Jésus, mais dis-nous, de quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Pour un peu dire à Jésus de se taire. Voyez, eux, ils ne croyaient pas en l'autorité du Seigneur. Et ce centenier, lui, n'a pas posé ces questions à Jésus. Ce centenier, lui, croyait que Jésus était revêtu de l'autorité qui venait de Dieu. Mais malheureusement, les Juifs-là ne croyaient pas en cela. Et si grande majorité des Israélites n'ont pas mis leur foi en Jésus, c'est à cause de l'orgueil de leur cœur. Et comme les pharisiens, beaucoup se disaient peut-être en eux-mêmes, il y a eu toute une discussion dans l'évangile de Jean, par exemple, dans Jean chapitre 8, de Jésus avec les pharisiens. Et Jésus dit un moment aux Juifs qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque les gens, en entendant que Jésus vous rendra libre à franchir. Il dit, mais voilà, nous sommes esclaves de personne. Après, ils disent, comment tu dis que vous deviendrez libre? Notre père, après, ils disent, c'est Abraham. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Voilà. Et donc, pour eux, voilà, Ils avaient pour père Abraham, ils avaient pour père Dieu. Ils ne sont pas des enfants illégitimes. Donc, pour eux, ils n'avaient pas besoin. Quel orgueil! N'avons-nous pas, et même ils disent à Jésus que tu es un Samaritain, que tu es un démon. C'est ce qu'ils disent à Jésus. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas croire ce que dit le Seigneur. Leur orgueil les empêchait de voir la réalité de leur état spirituel. Et pourtant, ils étaient comme le serviteur du centenier, non pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Ils étaient à cause du péché, comme nous tous, parce que nous sommes à cause du péché, nous sommes malades. À cause du péché, nous pouvons être paralysés. À cause du péché, on peut souffrir aussi terriblement. À cause du péché, se paralyser, il était proche de la mort, mais le péché nous emmène à la mort. Et on l'a lu, à cause du péché, nous sommes morts à cause de nos offenses et de nos péchés, la Bible nous dit. Et donc, il y a cette réalité spirituelle. Et le Seigneur va profiter de cette situation pour leur rappeler que eux aussi, ils ont besoin de mettre leur foi en lui pour ne pas connaître la mort spirituelle et aller en enfer. Le Seigneur souligne que la foi est la seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 11. Il dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette foule-là qui suivait Jésus-Christ était un peu comme une représentation du peuple d'Israël. Donc, en termes de statistiques, il y avait suffisamment de personnes là autour pour dire que voilà, c'est représentatif du peuple d'Israël. C'est comme quand on fait des sondages, hein, ils prennent 500 personnes et puis ils disent, voilà, c'est les Français qui pensent que c'est ça, alors qu'ils n'ont pris que 500, mais c'est représentatif. Donc, cette foule représente le peuple d'Israël. Et le Seigneur, lorsqu'il s'adresse à cette foule, il s'adresse au peuple d'Israël. Et là, le Seigneur leur dit que s'ils n'ont pas la foi, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les hommes et les femmes viendront, il dit, de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu pour dire qu'ils auront la vie éternelle. Un moment, le Seigneur, pour parler de la résurrection, il dit que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était mort. Et il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Pour rappeler que ces personnes qui ont mis leur foi en lui, qui ont mis leur foi en Dieu, ceux de l'Ancien Testament qui ont mis leur foi en Dieu dans l'espérance justement de la venue du Seigneur, alors ils ont la vie éternelle. Et le Seigneur a dit par exemple à Nicodème que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est l'acte de Dieu dans le cœur, dans la vie d'une personne. Il dit à ses disciples que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme ces petits-enfants qui sont là autour de nous. Il prend un petit-enfant sur sa jambe et puis dit que si vous n'êtes pas comme l'un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut faire preuve donc d'humilité, puisque les disciples voulaient savoir qui était le plus grand. Faire preuve d'humilité, donc ça va à l'encontre de l'orgueil justement, et dire voilà, j'ai besoin de Jésus-Christ, je reconnais Jésus pour qui il est, et je reconnais que j'ai besoin de lui, et humblement, et comme ce centenier qui dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne me suis pas senti digne de venir devant toi pour te demander quelque chose. C'est là, ce centenier a fait preuve d'humilité. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle, seule la foi en Jésus est suffisante. Et sur la base donc de la foi du centenier, le Seigneur dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et donc, le Seigneur, là aussi, quand on prend le temps d'analyser ce texte, il rappelle aussi, peut-être indirectement, que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Parce que dans le texte de Luc, il nous dit qu'il a envoyé les anciens des Juifs pour en parler à Jésus. Et les anciens des Juifs, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais voilà, il mérite que tu fasses ça pour lui. Il a construit notre synagogue. Donc ils ont commencé à étaler devant Jésus toutes les bonnes choses que ce centenier a pu faire et dire, voilà, il mérite que tu puisses faire ça pour lui parce que ceci, parce que cela. Et il y a des gens qui pensent que, voilà, pour avoir la vie éternelle, il faut faire des bonnes choses, il faut faire des bonnes actions et que ça sera suffisant. On va étaler ça devant Dieu pour dire, voilà tout ce qu'il a fait, donc il mérite d'aller au ciel. Ce n'est pas ça du tout. Le Seigneur ne parle pas des mérites de ce que ce centenier a pu faire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'une chose, il souligne la foi de cet homme. Et on a lu le texte d'Éphésiens 2, mais au verset 8 et 9, il est dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, en disant que les gens viendront de l'Orient et de l'Occident, là, le Seigneur parle déjà de l'Église. Des personnes qui viennent de tout peuple, de toute race, de tout ce qu'on veut, quelle que soit notre position sociale, etc., le Seigneur nous rassemble, tous ceux qui mettent leur foi en lui, pour former l'Église. Et c'est là l'enseignement que le Seigneur donne à cette foule, que si eux, malgré leur origine, malgré les promesses, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, s'ils ne mettent pas leur foi en lui, le Messie, eh bien, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Et là, dans le verset 12, le Seigneur parle des conséquences, justement, de cette incrédulité. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au chapitre 22 de Matthieu, le Seigneur raconte la parabole, on appelle la parabole du festin des noces. Il dit qu'un maître voulait faire les noces donc, pour son fils. Et une fois que tout est prêt, il a envoyé ses serviteurs pour que les invités puissent venir. Et tous ceux qui étaient invités au départ disent, voilà, nous ne pouvons pas venir, nous avons des choses à faire. Et donc les serviteurs viennent et disent au maître, voilà, les invités ne sont pas là. Et donc le maître n'était pas content et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, va un peu partout, allez partout et puis invitez tous ceux que vous allez trouver. Et ça, on le lit dans Matthieu chapitre 22. Et j'aimerais bien qu'on lise la fin de cette parabole. Matthieu chapitre 22. Bon, je vais lire à partir du verset 5. Il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alors verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes pour faire périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors le Seigneur Jésus raconte cette histoire. Il dit que le maître dit, « Mon ami, mais comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme est resté la bouche fermée. Se revêtir de l'habit de noces était donc la condition pour participer aux noces. Et dans le commentaire de la Bible à noter, il est dit que dans l'usage oriental, que, étant donné que les gens venaient, tous ceux qui étaient venus, beaucoup étaient pauvres, hein, voilà. Et donc, on leur donnait un manteau de fête, hein, on leur offrait un manteau de fête pour qu'ils se revêtent et qu'ils participent. Et là, cet homme-là, à qui on a offert ses vêtements gratuitement, ne l'a certainement pas accepté. Donc, il est entré avec ses habits souillés. Et lorsque le maître arrive, le maître dit, mais comment as-tu pu entrer comme ça? Il dit, non, tu n'as pas ta place là pour ce repas. Ce vêtement gratuit que le Seigneur, que le maître offrait à tous ses invités, il devait être accepté. Et cet homme a refusé, il est même resté la bouche fermée. Et la Bible nous dit que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous revêtons Christ. C'est ce qui est dit dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, cet habit de fête que le Seigneur nous offre, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous mettons notre foi en lui, nous nous revêtons de sa personne qui fait que nous avons accès auprès du Père. Et donc, et aussi accès à cette fête, à la table avec Abraham, Isaac et Jacob et les autres. Refuser de mettre sa foi en Jésus pour son salut, c'est refuser ce vêtement qui nous est proposé pour pouvoir participer aux noces et donc pouvoir être à table avec les croyants. Et à ces personnes qui ont fait preuve d'incrédulité, et justement le Seigneur les appelle les fils du royaume, le Seigneur leur dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, dans Matthieu chapitre 21, verset 43. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont fait preuve d'incrédulité, ils ont rejeté le Seigneur, mais la porte s'est ouverte pour les païens et ceux qui viennent d'Orient et d'Occident. Donc là, le Seigneur donne aussi les conséquences de leur incrédulité. À l'encontre de ces personnes, cet homme-là qui a refusé ses vêtements d'habits de noces, le maître dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et c'est ce que le Seigneur dit aussi au fils du royaume au verset 12. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura aussi des pleurs et des grincements de dents. Donc c'est la même chose. Et comme dans l'histoire de l'homme riche et Lazare, où l'homme riche, lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour des morts, où il souffrait cruellement, il est dit, et il demande à Abraham de demander à Lazare de venir lui mettre quelques gouttes sur sa langue. Alors, Abraham lui explique que là, ce n'est pas possible. Et alors, il dit que si on ne peut rien faire pour lui, qu'il souffre cruellement, alors de permettre à Lazare d'aller dire, parce qu'il avait 5 frères qui étaient encore vivants, de dire à ses frères que Lazare puisse parler à ses frères. Mais Abraham lui dit, mais non, mais ils ont Moïse et les prophètes, et qu'ils les écoutent. Ils ont la parole de Dieu, qu'ils puissent écouter. Et Jésus est la parole de Dieu. Et donc, croire en l'autorité de la parole de Dieu, croire en ce que Jésus-Christ a dit, est nécessaire et suffisant pour ne pas aller dans ce lieu de tourment, pour ne pas aller en enfer. Alors, dans Romains, il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, il y a des avertissements. Donc, il y a 2 possibilités, déjà. Soit on est assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça veut dire que soit on est sauvé, on a la vie éternelle. Ou soit on est avec les fils du royaume, jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est 2 possibilités. Alors, c'est la foi en Jésus-Christ seul qui permet d'accéder et d'entrer dans le royaume des cieux. Dans Luc chapitre 13, j'aimerais qu'on lise ce texte. Luc 13, à partir du verset 22. Luc 13, 22, il dit « Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. » Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Et des premiers qui seront les derniers. Il faut vraiment prendre au sérieux tout cela, frères et sœurs, chers amis. Viendra le temps où le maître fermera la porte. Et si vous êtes encore dehors, ils disent, voilà, nous étions avec toi, nous t'avons suivi. Non, il ne suffit pas juste de suivre. On peut venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole pendant des années et des années et être de ces gens qui suivent Jésus sans avoir mis leur foi en lui. Et viendra le temps où la porte sera fermée et il n'y aura plus de possibilité pour entrer dans la maison. Dans 2 Corinthiens 6, 2, il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Nous sommes comme cette foule qui suivait le Seigneur. Certains ont mis leur foi en Jésus, ce sont les disciples, mais beaucoup ne croyaient pas ou ne croyaient pas encore en lui. Qu'en est-il pour vous? Croyez-vous comme ce centenier en l'autorité et en la puissance de la parole de Dieu qui vous dit que si vous croyez en Jésus, vous serez sauvés? Ou est-ce comme ces fils du royaume, ces juifs qui connaissaient la parole, vous préférez endurcir votre cœur pour ne pas croire en lui? La porte de la grâce est encore ouverte, mais nous ne savons pour combien de temps encore. Donc c'est aujourd'hui que vous pouvez choisir entre être à table aux noces avec Abraham, Isaac et Jacob, ou prendre le risque d'être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous ne savons pas quelle décision a pris ce serviteur qui a été guéri. Il a été guéri de sa maladie, mais nous ne savons pas s'il a mis sa foi en Jésus. Dieu le sait. Et chacun doit savoir pour lui-même. Le Seigneur a dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur donc fut guéri. Donc c'est la foi en Jésus qui conditionnera le résultat. Si vous croyez, alors vous serez sauvés. Si vous ne croyez pas, vous serez condamnés. Et pour nous qui suivons Jésus, ayant répondu à son appel, comme Pierre, Jacques, Jean, voilà, ils suivaient Jésus, ils étaient des disciples de Jésus, ils ont répondu à l'appel, ils croyaient que Jésus était le Messie. Donc, comme eux, donc nous avons mis notre confiance dans le Seigneur. Nous pouvons le louer, comme nous l'avons fait ce matin, comme nous le faisons à chaque instant, et chaque dimanche lorsque nous nous retrouvons. Nous pouvons donc le louer car par sa grâce, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes de ceux qui seront venus d'Orient et d'Occident et que nous serons à table avec notre Seigneur, avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres qui ont mis leur foi en Jésus. Et lorsque le Seigneur il a institué la scène, il a dit « Je ne le boirai avec vous jusqu'au jour où vous serez avec moi dans le royaume de Dieu ». Donc nous attendons ce jour où nous serons avec le Seigneur et nous allons participer à sa table. Donc nous le faisons en attendant ce moment, mais nous avons cette assurance qu'un jour nous serons avec lui. Donc à notre Seigneur toute la gloire. Voilà. Amen.